France Musique. Été classique, les grands interprètes, France Musique.
Надо учить образному пониманию музыки и тем способом, которыми она передается оркестру, а через оркестр и слушателю.
Et on y retourne une fois de plus en ce jeudi 8 août. Retrouver cette silhouette, son style inimitable, son humour. C'est l'heure de notre grand interprète de la semaine, Gennady Rozhdestvensky, le grand chef russe auquel nous consacrons une grande rétrospective. C'est en 5 émissions, tous les jours de 11h à midi jusqu'à ce vendredi. Aujourd'hui, l'épisode 4, Gennady, l'explorateur inlassable du répertoire et le chef des intégrales. Gennady Rozhdestvensky et l'orchestre symphonique de la radio de Moscou, interprétant Berlioz, un bal extrait de la symphonie fantastique. Alors, il y a une facette essentielle de l'activité de Rozhdestvensky qui reste assez méconnue en Europe et dont on n'a pas encore vraiment parlé. En cela, on peut le rapprocher un peu de Leonard Bernstein. En plus d'être un chef, Georges Jesvenski était également un formidable programmateur. Grâce à l'étendue de son répertoire, aussi bien que grâce à sa curiosité. Le public de Moscou se souvient de programmes d'ailleurs d'une diversité, d'une originalité absolument rare. Il aimait associer des symphonies entre elles, des œuvres orchestrales à des morceaux à quatre mains par exemple, ou encore à des quatuors, tout cela au cours du même concert, et le tout commenté par Georges Jesvenski lui-même, avec l'érudition qu'on lui connaît. Il n'hésitait pas à parler de peintres, de tableaux, et c'est un peu la même curiosité, la même volonté de faire un travail de fond, qu'il a poussé ensuite à enregistrer autant d'intégrales. Alors il y a toutes les symphonies de Bruckner, nous allons en parler, mais aussi des intégrales de Sibelius, de Schumann, Tchaïkovski, Prokofiev, Shostakovich. Il a toujours voulu en faire autant, avec les 107 symphonies de Joseph Haydn, qu'il a pu d'ailleurs toutes jouer en concert, mais il n'a pas eu l'occasion, hélas, dans sa vie, de les enregistrer. Une curiosité chez ce grand chef qui dépassait d'ailleurs les grands piliers du répertoire. Il s'intéressait déjà très tôt, par exemple, à la musique française. Et en faisant mes recherches, je suis tombé sur une série d'enregistrements du début des années 60, quelques-uns parmi les 800 disques qu'il a enregistrés au cours de sa vie, dédiés à des compositeurs comme Lalo, Massenet, Ferdinand Hérold, Ambroise Thomin, très très jeune déjà. Et comme vous l'avez vu, il y a eu bien sûr aussi le Berlioz de la Symphonie Fantastique. D'ailleurs, je vous propose de poursuivre un peu dans ce disque avec la Marche au Supplice. Thank you. avec Gennady Rozhdestvensky, une symphonie fantastique, vraiment fantastique. Ça dégage, comme on dit, ça rue dans les brancards, les cuivres claquent comme des gifles. Est-ce que c'est trop dynamique? La partition n'est pas intacte, il est vrai. Gennady Rozhdestvensky, on sent qu'il l'a un peu arrangé, comme Munch le faisait aussi. Mais tout cela dans le but de rendre le fantastique plus encore, à travers un impact maximal, qu'il soit dynamique, sonore et même esthétique. C'est fulgurant, c'est déjanté, c'était avec l'Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou en 1968. Et avant de commencer à explorer ce qui va occuper une bonne partie de cette émission, son intégrale Bruckner, je vous propose d'entendre maintenant deux témoignages. Le premier recueilli par Bruno Mont-Saint-Jean que je vais vous lire, et le deuxième où le cinéaste parle encore de cette curiosité essentielle qui caractérisait Rozhdestvensky. Je considère ma profession comme celle d'un Kulturträger, un dispensateur de culture. Elle a pour objet de faire connaître à une masse de gens les chefs-d'œuvre de la littérature symphonique et d'opéra. C'est là ma mission première. Elle s'explique par un trait tout simple de mon caractère, la curiosité. En effet, la curiosité constitue un aiguillon majeur de mon existence. Cependant, elle a des limites. Un compositeur tel qu'Anton Rubinstein, qui a malgré tout écrit Le Démon et quelques belles mélodies, ne m'intéresse pas du tout. Ou bien encore un compositeur comme Felix Dresseck est quelqu'un que je n'ai pas la moindre envie de jouer. Personne ne pourra m'y forcer. En revanche, je suis ainsi fait que mon amour pour Berg et Schoenberg n'exclut en aucune façon celui que j'éprouve à l'égard de Shostakovich, Britten, Bartok, Janáček ou Martineau.
Il voulait faire du Taniev, il voulait proposer des choses que personne ne connaissait. Et alors, pour trouver les partitions, c'était très compliqué. Mais lui-même, comme il passait son temps chez les bouquinistes, à Paris aussi bien qu'à Moscou ou à Londres, il trouvait des choses absolument incroyables. Moi, je me souviens d'un jour, il m'avait rapporté un quatuor de Tibor Harshany, le compositeur hongrois, qui avait émigré en France et dans les années 30, et qui n'avait pas eu le droit à une naturalisation française. Et je me souviens, c'était marqué « compositeur, profession inutile ». Donc Tibor Harshany n'a jamais eu la nationalité française, mais Guinée a trouvé un beau jour un quatuor de Harshany dont il m'a fait cadeau. Et c'était, pour lui, une musique qui était écrite, c'était déjà quelque chose de formidable. C'est-à-dire que il crachait pas sur Lalo ou sur Saint-Saëns. C'était quelque chose qui était en soi, le fait de composer était quelque chose d'important pour lui. Alors il avait bien entendu aussi des goûts très profonds et certains rejets, mais a priori quand même, le phénomène de la composition était pour lui quelque chose qui était tellement mystérieux, tellement intense que ça lui permettait d'avoir ce goût.
et on commençait déjà à entrer un peu dans le vaste monde brucknerien de Gennady Rozhestvensky, monde où gravitent tranquillement toutes ses symphonies. Ici, l'adagio de la 5e symphonie, en compagnie des musiciens de l'orchestre du ministère de la Culture de l'URSS. Alors à propos de cette intégrale Bruckner, certains ont pu dire que c'était un avantage indéniable du régime soviétique, le fait que Rozhestvensky ait pu enregistrer à peu près tout ce qu'il voulait, du fait qu'il n'avait pas à prendre en compte, sous l'Union soviétique, de la notion de marché. Ce qui a fait par exemple qu'on lui a offert la possibilité d'enregistrer non seulement toutes les symphonies de Bruckner, mais aussi toutes les variantes que Bruckner a pu rédiger dans sa vie. Ça aurait été une chose complètement inconcevable en Occident, où il n'y a pratiquement pas de public pour quelque chose comme un coffret de toutes les versions de toutes les symphonies. Mais s'il a pu le faire et qu'il l'a fait, il ne faut pas croire que ça a été si facile pour autant. Il n'y a pas suffi d'annoncer qu'il souhaitait enregistrer ça pour que tout se fasse en un claquement de doigts. En fait, c'était presque tout le contraire. Il a notamment dû avoir de longues correspondances avec les autres autorités pour faire entériner son projet. Toujours est-il qu'il finit par enregistrer donc ses 21 symphonies de Bruckner, 21, car toutes les rédactions successives des symphonies que l'on connaît y sont passées. Je vous propose maintenant d'entendre un peu de la 7e, le Scherzo, et c'est avec le Grand Orchestre Symphonique de la Radio-Télévision de Moscou.
Thank you.
Les premières minutes de cet adagio immense de la 7e symphonie de Bruckner. On était bien sûr avec Gennady Rozhestvensky, grand chef russe auquel nous consacrons cette série de 5 émissions. Aujourd'hui, une émission qui s'intéresse à ses nombreuses intégrales notamment. Et je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous une anecdote de Rozhestvensky recueillie par Bruno Mont-Saint-Jean et qui explique comment le nom de Bruckner a pris un peu par hasard une résonance toute particulière chez les instances chargées de la surveillance des artistes à l'étranger. Pendant une tournée aux États-Unis, je dirigeais l'orchestre américain qui accompagnait le ballet du Bolchoï. Avant cela, nous avions reçu de nouvelles instructions non officielles, comme quoi nous étions désormais autorisés à accepter des invitations à dîner. Il était tout de même difficile de prétendre qu'on était tout le temps malade ou occupé, d'autant que toutes ces sornettes ne trompaient évidemment personne. Maintenant, c'est permis. Si quelqu'un vous invite, vous pouvez accepter, à condition d'en informer l'un de nous et d'être impérativement rentré à l'hôtel pour minuit. Et voilà bientôt qu'un violoncelliste de l'orchestre me convie à dîner. Je le fais savoir à mes gardes-chiourmes qui me disent « Oui, oui, allez-y bien sûr, mais soyez gentils de nous faire ensuite un rapport sur ce qui se sera passé là-bas. » Je me rends donc à cette soirée chez mes amis américains, puis rentre à l'hôtel juste après minuit. Une fois dans ma chambre, je ponds mon rapport. Tout le papier à lettres de l'hôtel y passe. Aujourd'hui, le temps, à telle heure, je me suis rendu à telle adresse dans le quartier de Brooklyn, à l'invitation de X, j'avais reçu de Y l'autorisation de m'y rendre. Était présent au repas, un tel. Vers 22h30, mon voisin de droite, dont je vous ai communiqué le nom ci-dessus, me demanda ce que je pensais de la différence entre les deux rédactions de la 4e symphonie de Bruckner. Je lui répondis qu'à mon avis, c'était dans le premier mouvement que se trouvaient les modifications les plus significatives, en particulier au chiffre 15. Voilà, voisin qui me posait encore 2 questions du même type, auxquelles je répondis. Notre conversation dura 14 minutes en tout, après quoi j'ai appelé un taxi et suis rentré à l'hôtel. Mon ange gardien expédia mon rapport à Moscou. On devine la suite des événements en apprenant la réaction en Russie des récipiendaires du rapport. Mais qu'est-ce que c'est que ce crétin? Un rapport sur un soi-disant Bruckner? Que voulez-vous qu'on en fasse de votre Bruckner? Et d'abord, qui c'est ce Bruckner? Après cela, on ne me demanda jamais plus où j'allais, ni pourquoi. On ne peut quitter la 7e symphonie de Bruckner sans être allé entendre un peu ce qui se passe au cœur du grand adagio de presque une demi-heure que l'on quittait à l'instant, un peu prématurément. On continue encore quelques minutes. On écoutait un deuxième extrait de cet immense adagio de la 7e symphonie de Bruckner, toujours avec les musiciens du Grand Orchestre Symphonique de la Radio-Télévision de Moscou et maestro Gennady Rozhestvensky, le grand chef russe qui avait cette immense passion pour Bruckner. Il considérait que c'était le plus grand symphoniste de tous les temps. Il avait une adoration pour ses symphonies et, comme souvent avec lui, cette volonté d'aller chercher à la source, dans ce projet complètement utopique, il faut le dire, d'enregistrer la totalité des 21 versions existantes sur le total des symphonies. Et ce n'était pas simplement pour lui l'idée de mettre en archive ce qui existait, c'était vraiment d'ordre presque sentimental. Il trouvait qu'il y avait dans toutes ces versions des choses qui étaient extraordinairement intéressantes et il ne parvenait pas à se résoudre de choisir entre l'une ou l'autre et donc il a consacré 12 ans de son existence à Bruckner en donnant aussi une intégrale à Moscou.
Été classique. Julien Hanck, France Musique.
Je vous propose maintenant de clore ce chapitre sur l'intégrale Bruckner par l'un des plus forts et des plus fous moments de tout ce cycle, le scherzo de la 9e symphonie. Thank you. Gennady Jesenski et l'Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou dans le Scherzo de la 9e Symphonie. Alors vous avez certainement pu le constater, les enregistrements qu'il a fait avec les orchestres soviétiques, c'est parfois assez curieux du fait qu'on ne trouve pas dans les orchestres soviétiques le raffinement sonore que l'on trouverait avec un orchestre européen ou américain. C'est plus rauque, c'est une autre manière de jouer, mais il y a chez les soviétiques en revanche une manière de chanter à son instrument qui est prodigieuse. Tout ce qui s'approche de cette vocalisation de la musique, il faut penser à l'école du violon et du violoncelle en Russie, tout ce qui s'est passé avec David Oistrakh, Kogan, que des solistes qui ont enseigné et qui ont transmis tout leur art. D'ailleurs, c'est un peu pareil du côté des vents. On ne peut pas comparer avec le niveau excellent qu'ont les vents des orchestres français aujourd'hui, par exemple. Donc tout ça avait une influence sur l'esthétique générale. Et pour parler plus précisément de l'esthétique de l'enregistrement, eh bien, elle était aux mains d'un monsieur qui s'appelle Igor Vieprintsev, qui était directeur artistique des enregistrements de Rozhestvensky et qui a amené ces enregistrements Melodia vers une esthétique qui permettait de gommer un petit peu ce qu'il pouvait y avoir de rustre dans les sonorités des orchestres, avec notamment une bonne dose de reverb. Mais tout ça aussi pour dire qu'on raille souvent les sonorités crues des orchestres de Rozhestvensky et même plus généralement de l'URSS, mais on est en droit aussi, je pense, d'être attaché à ces timbres un peu acides, un peu métalliques, mais infiniment expressifs. Écoutez-moi par exemple cet extrait du Scherzo de la 5e symphonie de Mahler et dites-moi si vous ne trouvez pas ça ivre de vie. Des musiciens jamais tout à fait infaillibles, mais une interprétation toujours ivre et vibrante de vie. On écoutait Gennady Rozhdestvensky et le grand orchestre symphonique de la radio-télévision de Moscou dans ce scherzo de la 5e symphonie de Mahler, un enregistrement de 1973. Une version aussi attachante et aussi érudite, mine de rien, que Gennady Rozhdestvensky lui-même. Je pense qu'il faut avoir en tête l'image de ce chef, non seulement sur scène, mais aussi quand il travaillait les partitions pendant des après-midi entières. Il était alors à son bureau, on le voyait noter, la partition se couvrait petit à petit de remarques. Il faisait parfois aussi des retouches. On sait que George Sell avait fait des retouches sur les symphonies de Schumann. Eh bien, Gennady Rozhdestvensky l'en a fait lui-même assez fréquemment, toujours avec une science de l'orchestre, des équilibres des timbres assez surprenantes. Et pour clore ce 4e épisode de notre rétrospective consacrée à ce grand chef, je vous propose son interprétation inoubliable de l'Allegro molto d'une autre 5e symphonie d'un compositeur dont il a aussi fait l'intégrale, celle de Sibelius. Zvensky à la tête de l'Orchestre Symphonique de la Radio de Moscou pour cette cinquième de Sibelius dont on écoutait l'Allegro Molto, le dernier mouvement. Et c'est l'œuvre qui clôt ce quatrième épisode de notre série Grands Interprètes consacrée au chef russe Gennady Rozhdestvensky. Le maestro nous a quittés l'an passé, le 16 juin 2018. Demain, cinquième et dernier épisode, Gennady, l'interprète de la musique russe de Tchaïkovski à Chostakovitch en passant par Glazounov. Pour cette quatrième émission à réécouter, à podcaster sur francemusique.fr, je remercie Bruno Mont-Saint-Jean et Georgi Chornin pour leur aide et leur témoignage. Une émission réalisée par Patrick Lérissé. Je remercie également Pierre Tessier, Stéphane Poitevin et Déborah Dagobert.
À réécouter sur francemusique.fr.